ovale sans ellipse. Table ovale sans ellipse avec ce soir Angelo Andreotti pour le Parti communiste, Jean-Louis Calmette pour les Verts, Francis Martin pour le PRG, Serge Roch pour l'UMP et François Jeannodet pour le Modem. Il ne nous manque que le Parti socialiste. J'espère que c'est provisoire puisqu'il y avait quelqu'un qui était annoncé. Nos sujets de ce soir sont, on va commencer par le grand emprunt puisque c'est ce que vous aviez semblé vouloir. Et le grand emprunt, donc, qu'est-ce que vous pensez du montant arrêté, puisqu'il semble qu'on s'oriente vers 35 milliards, des destinations, l'orientation, finalement, il me semble qu'on fait beaucoup de choses avec 35 milliards, finalement. Est-ce que c'est pas un peu inquiétant? Et puis, son coût, parce que on va finalement se tourner vers les investisseurs institutionnels, qui vont nous prêter, enfin prêter à l'État, un taux que je crois quand même supérieur à ce qu'on aurait pu trouver sur le marché financier international. Qui veut commencer? Ben oui, alors allons-y, le PRG.
Voilà, le PRG. Mais moi, je vais vous poser une autre question. Je vais vous poser la question suivante. À quoi va nous servir cet emprunt? Il faut savoir quand même que l'État français emprunte tous les jours des sommes beaucoup plus importantes à des taux extrêmement bas sur le marché international. Je ne vois pas pourquoi M. Sarkozy, comme ça, décide de faire un emprunt. 35 milliards, oui, 35 milliards, ça ne veut rien dire, parce qu'on ne fait pas grand-chose, finalement. Hein. Au niveau de la France, 35 milliards, c'est pas grand-chose. Je me demande donc pourquoi il a décidé ça. C'est pour ça que je vais vous poser une autre question. Emprunter, pourquoi faire?
Oui, mais la commission, présidée par deux anciens premiers ministres, a donné quelques idées.
Oui, ils ont donné des idées, mais est-ce que ce sera respecté? Vous savez, les idées qu'on donne à M. Sarkozy ne sont pas toujours respectées. Hein. Il fera ce qu'il voudra. Il a annoncé qu'il donnerait un petit peu d'argent ici, un petit peu d'argent là. Mais je trouve cet emprunt qui va coûter très cher, parce que les emprunts d'État coûtent extrêmement cher à rembourser. Il va faire emprunt aux zinzins, c'est-à-dire aux institutionnels. Au moins, s'il avait fait appel aux particuliers, ça aurait pu contenter quelques particuliers qui auraient pu placer un petit peu d'argent à un taux raisonnable.
Mais supérieur à celui du livret A, si j'ai bien
compris. Oui, voilà, supérieur à celui du livret A. Alors que là, on va faire un emprunt qui va nous coûter très cher, parce que le taux d'intérêt va être quand même relativement plus élevé que ce qu'il est sur le marché international. Pourquoi? Je ne sais pas. Je sais toujours pas pourquoi.
Monsieur Andreotti, je vois que vous avez des notes, vous avez préparé, c'est bien. Ouais,
si vous voulez, moi, très modestement, j'en profite pour faire la lecture de notes de presse syndicale et de l'Humanité. Mais sinon, je pense par moi-même également, sauf que parfois, sur ces questions, les lacunes de l'information et peut-être aussi de connaissances, parce qu'il s'agit de questions assez pointues, présentent des limites. Alors, pour ne pas les élargir trop, c'est les limites par rapport à ce que l'on sait. Mais évidemment, il y a trois directions annoncées. Hein. C'est les principales, l'université, la recherche, les principales secteurs qui bénéficieraient d'investissements, puis la ville demain, et la société numérique. Donc, le principe de l'emprunt, pour nous, enfin, au Parti communiste français, il est pervers dans le sens où on enrichit tout simplement le système financier, on le nourrit, on nourrit la spéculation. On sait qu'on achète de la dette, on achète des crédits. Même si l'on évoquait les privés, les particuliers, je crois qu'il y a une logique spéculative qui philosophiquement et économiquement est très malsaine. Parce que qui pourrait acheter dans le contexte de bas salaires et de pauvreté actuelle, qui pourrait acheter ou prêter à l'État, évidemment ceux qui n'ont pas vraiment besoin de s'enrichir. Et on a vu sous l'emprunt Giscard dans le passé, l'État remboursé à des taux faramineux.
Et il avait été garanti sur l'or qui n'avait pas bougé pendant 20 ans. Mais au moment où il a fallu rembourser, il s'est mis à bouger.
Que cette fois-ci, on ne remboursera pas ces taux-là. Mais de toute manière, ça ne participe pas d'une logique économique. Ça me paraît être donc très contestable et je finirai par signaler simplement que l'État s'est dessaisi de l'outil monétaire. Dans la logique européenne, la Banque centrale dicte sa loi d'une manière complètement occulte. C'est le système bancaire et financier qui fait la loi. On s'est dessaisi de cet outil. On se dessaisit même d'une monnaie, sans discussion, sans même référendum, sans débat, comme nous le contrairement à ce que nous réclamions. Et on nous impose finalement de nous endetter. Nous sommes endettés, culpabilisés, alors que la dette, c'est celle des politiques menées. Hein. Ce ne sont pas les citoyens français qui creusent le déficit. Et je déplore qu'on ait comme réponse qu'un emprunt à titre de gage pour l'avenir.
Monsieur Roch, pour l'UMP.
Oui, je remarque simplement deux choses. Premièrement, que cet emprunt, il a été étudié par deux anciens premiers ministres de tendances différentes, socialistes et UMP. Donc ça garantit quand même une certaine hauteur de vue, une certaine approche non partisane, et que tous les deux ont été d'accord pour rentrer dans cette démarche. Ils ont accepté de présider cette commission, donc c'est qu'ils étaient favorables au principe de l'emprunt. Ils en ont fixé le montant qui apparaît raisonnable, même si effectivement la France est déjà bien endettée et que ça va rajouter à l'endettement. Mais au moins, cet emprunt permettra-t-il de faire ce qui nous a manqué ces dernières années, et c'est-à-dire de penser à des travaux d'investissement, à agir pour l'avenir, pour préparer l'avenir. Vous savez qu'un des problèmes de la France et du budget français, c'est que l'essentiel de nos ressources part dans le fonctionnement. On fonctionne, mais on investit très peu, en tout cas beaucoup moins que proportionnellement qu'il y a 30 ou 40 ans, il y a plus de grands travaux. Bref, il y a un déficit concernant les dépenses d'investissement capables de préparer l'avenir, et quand même la recherche, l'enseignement supérieur, la ville, les techniques nouvelles de télécommunications, c'est bien comme ça qu'on va préparer l'avenir. On était capable jusqu'à présent à faire un TGV, une ligne de TGV par an, mais on en fait trois. Donc on essaie de mettre un peu plus d'argent sur l'investissement, et autant la dette concernant le fonctionnement est critiquable parce que elle se nourrit elle-même et elle grossit elle-même. Autant quand c'est pour préparer l'investissement, pour préparer le développement futur, pour préparer le pays à affronter le futur et à espérer également des rentrées et des recettes supplémentaires dans l'avenir, autant donc l'argent investi dans la partie investissement est moins critiquable que quand il s'agit de simplement fonctionner, parce que fonctionner, on bouge des trous pour en creuser d'autres, mais c'est pas comme ça qu'on prépare l'avenir. Et je crois qu'au moins cet emprunt aura-t-il l'avantage, en tout cas c'est son but, de préparer l'avenir et de mettre l'argent sur des secteurs qui conditionnent l'avenir de nos enfants.
Alors, on va avoir de l'argent sur des secteurs qui conditionnent l'avenir de nos enfants. La question que je pose, c'est les secteurs, ils ont été déterminés par cette fameuse commission présidée par deux anciens premiers ministres. Mais en même temps, on entend parler d'un métro Grand 8 en région parisienne. On entend la question que... Mais est-ce qu'il est opportun de la poser? Est-ce que on va avoir suffisamment pour que la fibre optique aille aussi dans nos campagnes et pas seulement en région parisienne? Est-ce que les transports, parce que ligne TGV, mais enfin on a sollicité les collectivités locales fortement. Alors est-ce que là la commission, ou est-ce qu'on imagine quelque chose pour que ça... Effectivement, que non seulement les secteurs soient concernés, mais que géographiquement ce soit équitable. Vous avez une idée de ça, monsieur Calmette, pour les Verts?
Oui, d'abord un mot plus général sur ce grand emprunt. Bon, on a toujours été favorable à l'intervention de la puissance publique dans l'économie, mais là, monsieur Roch l'a effleuré, la dette qui est déjà énorme va encore être amplifiée l'an prochain, déjà, parce qu'il faudra quand même le rembourser aussi, cet emprunt. Comme intervention de la puissance publique, on aurait préféré la fiscalité, nous, par exemple. Hein. Par exemple, ça aurait été la suppression du paquet fiscal, ça aurait rapporté 15 milliards par an. Sans faire d'emprunt, ça aurait été la suppression des niches fiscales dont bénéficient les plus riches. Et ça aurait été, par exemple, remettre le taux de TVA de la restauration qui aurait rapporté déjà 3 milliards de plus. Et on n'aurait pas eu besoin d'emprunter. C'est déjà ça important. Après, concernant peut-être l'utilisation de cet argent, oui, effectivement, il faut le donner pour nous préparer, je pense, anticiper l'adaptation de nos économies au changement, qu'il soit climatique, qu'il soit énergétique, et tout ça marquera le siècle. Alors, je pense pas que ce soit en investissant sur des ceintures parisiennes et tout ça. Je pense qu'on continue dans cette vieille économie qui nous mène actuellement droit dans le mur, que ce soit dans le domaine social, que ce soit économiquement même, bien sûr, et écologiquement.
Monsieur Jadot, au MoDem, quelle idée on se fait de l'utilisation qui va pouvoir être faite de cet argent ?
Eh bien, écoutez, je vais faire une réponse un peu sur le même, de la même sorte que celle de monsieur Calmette. D'abord, revenir un petit peu sur cette idée qui arrive comme ça, qui à mon avis est très révélatrice de la façon dont les affaires, le gouvernement et l'exécutif mènent notre pays en ce moment. C'est une grande idée du président, il faut emprunter. Bon, il faut emprunter parce qu'on s'aperçoit, hein, et ça c'est très révélateur à mon avis, hein, de la dérive dans laquelle sont entraînées nos finances publiques, hein, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement on n'est plus capable, collectivement, malgré des sommes considérables qui sont dépensées chaque jour, qui sont augmentées chaque jour, et on en est bien tous conscients ici, et même M. Roch l'a rappelé, hein, des déficits de fonctionnement considérables, hein, on n'est plus capable d'investir dans les secteurs qui portent notre avenir, hein, qui sont l'enseignement supérieur et la recherche. On n'est plus capable d'investir dans ce domaine-là. Hein, dans l'économie numérique, on a un retard considérable. Dans les énergies renouvelables, on a un saupoudrage actuellement, mais on n'a aucune direction, aucun axe stratégique dans ce domaine-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, on va emprunter. Allons-y, empruntons. Hein. Et on a mis, là encore une fois, la charrue devant les bœufs. On a dit, empruntons, mais on ne savait pas pourquoi faire. On ne savait pas auprès de qui on allait emprunter. On ne connaissait même pas la somme. Et je dois dire qu'on la connaît toujours pas, puisque ça reste de l'arbitrage du seul président de la République, si j'ai bien compris. Voilà. Alors, cette méthode-là me paraît complètement aberrante, hein, et ça nous évite, évidemment, de réfléchir au fond des choses, hein, c'est-à-dire d'essayer de comprendre pourquoi on n'est pas capable, dans ce pays, depuis une trentaine d'années maintenant, hein, d'être un peu plus raisonnable sur nos dépenses de fonctionnement, de nous organiser mieux, hein, dans notre organisation collective, pour dégager les marges de manœuvre qui nous permettrait justement d'investir pour préparer l'avenir.
Mais voilà, faut être clair quand on dit ça. Monsieur Calmette, il a dit, écoutez, vous faites sauter le bouclier fiscal, ça vous fait 15 milliards. Vous faites sauter la TVA des restaurateurs, ça vous fait 4 milliards. Et puis, vous enlevez quelques niches fiscales, ça fait 5 milliards. Et il nous a trouvé 30 milliards en l'espace de 20 secondes.
Mais tout à fait.
Alors vous, monsieur Jadot,
mais c'est beaucoup plus grave que ça.
Vous nous dites, il faut s'y prendre autrement.
Oui,
alors,
bien sûr.
On vous écoute. Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Il faut comprendre pourquoi, effectivement, nos dépenses de fonctionnement dépassent considérablement.
Oui, vous en avez peut-être une petite idée, quand même. Parce que, d'un côté, vous nous dites,
oui,
je suis de l'avis de M. Calmette, oui. Et en même temps, vous êtes de l'avis de M. Roch.
Non, je disais, je suis de l'avis de M. Calmette pour dénoncer la démarche. Hein. Mais il est vrai que le bouclier fiscal, soyons clairs, effectivement, hein, c'est une en période de crise, hein, c'est une mesure sur laquelle il aurait fallu revenir, peut-être même temporairement, pourquoi pas, hein, mais au moins pendant notre période de crise, et Dieu sait si on nous a, et Dieu sait si nous sommes dans la crise, voilà une mesure effectivement qu'il faudrait au moins temporairement pour quelques années remettre en cause. Hein. Rappelez-moi les autres mesures, je les ai.
La TVA des
restaurateurs. Mais c'est toujours un peu le même problème, si vous voulez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
Des dépenses de fonctionnement.
Dans l'enseignement, dans les hôpitaux, dans la police. Voilà, c'est ça le fonctionnement.
Ouais. Non, mais il y a d'autres. je pense qu'il y a une réflexion qui n'est pas menée.
La réflexion, elle est menée. C'est surtout que c'était très difficile.
Si on part de principe en disant c'est difficile, on ne fait rien, on emprunte à côté. Moi, ce que je constate simplement, c'est que
l'emprunt. Depuis 20 ans ou 30 ans, aucun gouvernement n'a osé le faire.
entraîner à dépenser encore plus, hein, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas, on n'est plus capable. Hein. Alors pourquoi est-ce que les Allemands y arrivent? Pourquoi est-ce que les Italiens et les Espagnols, bon les Espagnols un peu moins, mais arrivent à quand même des résultats un peu mieux, à marcher
les Espagnols ne sont pas, sont pas un exemple.
Donc ce sont des problèmes de fond.
La crise est plus approfondie que.
Et puis alors il y a une dimension aussi sur laquelle qui manque quand même beaucoup dans cette dans cet emprunt et dans cette affaire là, c'est quand même la dimension européenne. Hein, on assiste là à un repli national de notre pays. Et voilà, et donc ça c'est
des
ordres, extrêmement regrettable.
C'est pas juste un comportement franco-français.
Mais je le regrette.
En période de crise, chacun essaie de.
C'est en période de crise, il faudrait être un peu solidaire.
Chacun n'a pas aussi la même analyse de la crise, et les Allemands veulent faire quelque chose, les Français autre chose, les Espagnols encore. C'est facile à dire, il faut, mais après, dans la réalité, les choses sont plus compliquées.
Va nous permettre de reprendre la marche vers l'avenir. Parce qu'au contraire, ça va nous rajouter des lourdeurs supplémentaires sans régler nos problèmes de fond, hein, et notamment toute notre organisation, notamment la décentralisation, toute notre organisation territoriale. Hein, il y a des pertes d'énergie considérables, hein, et il faudra bien quand même s'y intéresser.
On va supprimer la moitié des conseillers généraux et régionaux.
Par exemple.
Mais ça, c'est la réforme.
En matière de coûts de fonctionnement, je ne voudrais pas ranimer.
Monsieur André.
Mais je voudrais rappeler quand même qu'il est particulièrement déplacé de jeter l'opprobre sur les élus locaux quand, au sommet de l'État, on donne l'exemple de la gabégie la plus scandaleuse. Hein, grande cérémonie, augmentation de 170%. Et autres frasques. Donc je clôt la parenthèse, mais je pense que c'est plus globalement ce que disait Calmette tout à fait. Nous en avons fait même des projets de loi à l'Assemblée nationale. Je regarde la logique d'ensemble et je trouve partout les moyens mis en œuvre sont ceux qui vont aider à délocaliser. Financement d'une entreprise dans le cadre du fonds de modernisation des équipements automobiles, Trève. On a accordé 55 millions d'euros à cette seule entreprise d'aide directe, l'État, avec condition de délocaliser la production. Donc c'est un exemple parmi d'autres.
On parle de quelle entreprise ?
Trève, c'est équipementier automobile.
Oui, et ils sont ?
Et qui va délocaliser et qui a reçu 55 millions d'aides. Ça existe
pas. Pour délocaliser quand même.
Ah, c'est une condition.
Ça m'étonnerait.
Sous la condition.
Délocalise moins, je pense que là, c'est pas l'information n'est pas.
Je ne mettrai pas en cause.
De l'argent pour délocaliser.
La
production, si on regarde la production française d'automobiles, par exemple, il y a quelques années, on était à 10%. Comme les Allemands, qui sont à 11. Bon. Eh bien, 10% de la production mondiale était d'origine française. Comme il y en avait 10% du côté allemand. Il y a une dizaine d'années. Maintenant, vous savez où on en est de la production mondiale? On est à 5%. Alors que les Allemands se sont maintenus à 10%. Donc, est-ce que vous voulez qu'on continue? Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas un motif à aider l'industrie française pour qu'elle reste en France et qu'elle ne continue pas à délocaliser? C'est aussi...
Mais vous inventez, Monsieur Roch. Je vous parle de délocalisation de démantèlement. La France n'a pas de politique industrielle. Elle n'en a pas.
Moi, je pense
le seul projet qui est une envergure, il est fait dans le cadre du consortium Airbus, et qui existait bien avant notre gouvernement, et on sait de quelle manière il a failli capoter. Donc il n'y a pas de politique industrielle.
Mais c'est la politique industrielle du gouvernement actuel, c'est la suppression de l'ATP, vous savez que l'ATP ça n'existe qu'en France. Vous n'avez aucun pays qui a une TP. Aucun.
Ça s'appelle pas comme ça.
Non. Mais il existe quelque chose, mais c'est pas. Mais bien sûr. Mais ça porte. Il y a l'impôt sur les sociétés. Il y a ce qui veut être mis en place. L'impôt sur la valeur ajoutée. C'est justement ce qui est contenu dans la réforme. On se calque sur des dispositifs qui existent ailleurs. Mais l'équivalent de la TP Et ça n'existe nulle part ailleurs. Et c'est quand même une des causes de délocalisation. Alors je sais bien que tout ça c'est difficile, bien sûr c'est difficile. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que ça n'a pas été fait jusqu'à présent. On va plaindre Total, Bouygues, Vinci, les pauvres.
Mais
je ne sais pas si... Mais vous pouvez souhaiter qu'ils restent en France. Il vaut mieux qu'ils travaillent en France plutôt que de travailler dans d'autres... Écoutez, dites-le aux travailleurs qui sont dans ces entreprises, vous verrez comment vous serez reçus. Les milliers d'emplois que ça représente. Oui.
Je souhaite que la suppression de l'ATP soit remplacée par quelque chose de costaud, parce que figurez-vous que les entreprises qui vont faire faillite vont être nombreuses. Si les collectivités locales ne peuvent pas faire travailler les entreprises du BTP, du bâtiment, etc., mais je vous garantis que des faillites, il va y en avoir.
Surtout avec les salaires qui stagnent.
Ne soyez pas oiseau de mauvaise figure.
On prépare l'avenir en réfléchissant à tout ça.
On s'est un peu écarté du grand emprunt. J'aurais voulu juste y revenir, puisque que vous fassiez part de vagues espoirs, quand même, puisqu'après tout, ça va être de l'argent dépensé. Donc, si tant qu'à faire, est-ce que vous souhaiteriez qu'on le dépense par chez nous, et à quoi faire dans ce cas-là?
Est-ce que vous avez besoin de faire une douche chez vous?
Ça va, je vous incommode.
C'était un petit aparté parce que on peut en faire quelques-unes avec 35 milliards, des douches à 220 000 euros, on peut en faire quelques-unes quand même, je pense. Si ça doit servir à ça, l'argent, c'est inutile de faire cet emprunt.
Enfin, nous sommes partisans.
Nous sommes partisans de
remettre en service la loi qu'on disait loi U à l'époque, c'est-à-dire créer des structures de contrôle de l'utilisation de l'argent public, des structures démocratiques qui fonctionneraient dans tous les départements et partout où l'argent public est investi massivement.
Est-ce que ce qu'on appelle des cours des comptes n'en tient pas lieu?
Non, parce que ce n'est pas, c'est une structure étatique, c'est une structure officielle, mais pas démocratique du tout. Et elle a son fonctionnement, on ne va pas la contester. Mais ce n'est pas du tout l'esprit dans lequel on aimerait. Il faudrait que les salariés, les citoyens puissent avoir un droit de regard, parce que cet emprunt, on nous dit qu'il va aller dans l'université, mais quand on lit le discours qui l'accompagne, on s'aperçoit que c'est dans un pilotage, un partenariat plus qu'improbable entre les structures, les laboratoires de recherche publics et privés, les acteurs industriels. Ce salmigondis ne nous dit rien de ce que sera l'utilisation de cet argent. Ce sont des belles phrases, mais on préférerait, nous, une mise en place avec un contrôle citoyen et dans le cadre d'une... y compris que les élus aient leur mot à dire, bien sûr.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ou... Est-ce qu'on a suffi ou est-ce qu'effectivement, dans la mesure où on emprunte encore plus, est-ce qu'on ne peut pas mettre en place quelque chose?
Le contrôle de légalité et la Cour des comptes s'adresse surtout aux comptes publics, aux collectivités territoriales. La Cour des comptes ne contrôle pas, en tous les cas, les entreprises privées.
Elles n'ont pas de moyens d'action non plus. Elles ne font que constater. Elles ne peuvent pas intervenir, agir.
C'est pas leur but. Qu'il faille contrôler l'utilisation de l'argent public, je pense qu'effectivement c'est nécessaire, et c'est d'autant plus nécessaire que nous sommes en période de crise, d'une part, et que d'autre part, on a connu, hélas, des dérapages et des scandales, on peut bien le dire. Donc il faut que d'une manière ou d'une autre, l'argent public soit mieux contrôlé, en France et ailleurs, parce qu'il y a tout ce qui concerne les paradis fiscaux, etc. Le contrôle de l'argent, des mouvements de l'argent, doit être plus présent. Et le travail au noir, en fait, tout ce qui fait perdre de l'argent public d'une façon ou d'une autre, eh bien, il est bien évident que il faut faire le point. Il faut que ce soit un contrôle qui soit objectif, équilibré, et de telle sorte que bien l'État contrôle mieux ses finances.
Mais il ne fallait pas abolir cette loi, Monsieur Roch. Elle existait. Elle était...
Oui, mais elle était trop lourde. Il ne faut pas faire une usine à gaz. Il ne faut pas que derrière chaque entreprise, il y ait un policier.
Usine à gaz, c'est un mot facile.
Non, mais bien sûr.
Chaque fois qu'on veut avancer dans la démocratie, on nous traite d'utopistes ou de gaziers.
Non, mais écoutez, on a bien vu ce que donnaient les contrôles dans les anciens pays soviétiques, ce que ça pouvait donner. Ça aboutit aussi à une rigidification terrible de la société. Donc, il ne faut pas tomber dans ces travers-là. Mais il est normal que, s'agissant d'argent public, comme c'est le cas des collectivités territoriales, qui doivent rendre compte de l'utilisation de l'argent public, eh bien, l'argent qui est délivré par la puissance publique soit mieux contrôlé, y compris d'ailleurs, dans certaines entreprises publiques.
Moi, je vous propose.
Je pense en particulier aux hôpitaux où il y a.
Pôle bancaire public, comme quoi on pourrait maîtriser sa monnaie et le prêt et les taux. Comme vous avez vu dans certains pays d'Amérique latine, ils créent une monnaie pour résister au dollar. Et ça s'appellera le sucre. Et on pourrait faire la même chose parce que nous parlons à l'air. En réalité, nos belles intentions. Elles sont sous la coupe réglée de la Banque centrale. Cet emprunt, les pôles d'excellence
réglent pour le détail. Il y en Amérique du Sud, n'ont pas une banque centrale.
Non, certains pays.
Qui va régir,
certains pays ont créé une monnaie commune et veulent créer une banque et une monnaie commune de développement et d'investissement.
Ça ressemble un peu à
pour échapper au FMI et au dollar. Et à la loi du dollar. Donc c'est l'exemple qu'on peut innover.
Oui, mais à propos de monnaie commune, on a l'euro et entre nous quand même, heureusement qu'on a eu l'euro ces dernières années. Et je pense que ça nous a quand même protégés dans une certaine mesure de la crise.
Hein.
L'euro a été protecteur
attention.
Pour... D'ailleurs, la preuve, c'est que les pays qui n'en bénéficiaient pas, ils veulent y être.
Hein. On va laisser M. Jeannodet intervenir sur l'Europe et puis après on va passer à un deuxième sujet où on nous a consultés tous.
Oui, effectivement, l'euro est une chance, plus qu'une chance, hein, puisque nous l'avons mérité, hein, etc. Donc c'est un bienfait, hein, globalement bienfait. Je crois qu'il faut faire attention également, tout à l'heure je parlais de la dérive de nos finances publiques, que cette dérive française ne mette pas en cause le fondement même de l'euro. Je ne pense pas que nos amis allemands vont nous laisser dériver comme nous le dérivons actuellement. Et ils auront parfaitement raison. À un moment donné, il n'y aura pas que les Allemands. Hein. Tous les pays euros vont nous dire à un moment donné, attention, si vous ne réglez pas au plus vite votre organisation, vos façons de dépenser, vos déficits excessifs, c'est de nature à remettre en cause même l'euro. Hein. Donc je pense qu'il faut y faire attention. Et je reviens sur cette histoire de grand emprunt. C'est là encore donner un mauvais signal. Hein, en disant bon ben on n'est pas capable par notre déficit, par notre dette considérable, de préparer les dépenses d'avenir, empruntons encore plus. Hein, et bien cette démarche là, moi je la trouve assez choquante. Hein, je dois dire c'est assez inconséquente. Hein, et elle m'attriste un peu. Alors évidemment, les secteurs d'avenir...
Elle nous permettra d'équiper plus vite le pays. Et au lieu d'avoir des équipements qu'on aura eu dans 2 ou 3 ans, on les aura tout de suite. C'est ça la justification.
En fait, cet emprunt n'est pas destiné non plus aux équipements d'infrastructures. Hein, ça a été très clairement dit. Hein, notamment, tout ce qui est TGV ne sera pas financé avec ça.
Oui, mais pas le TGV, mais l'enseignement supérieur, la recherche, c'est aussi...
Une parenthèse courte, comme explique ce que seront des pôles d'excellence... dans l'université et la recherche, parce qu'on se gave de mots, mais si j'avais le temps, je vous ferais voir ce que c'est que ces pôles d'excellence et ce que ça coûte.
Mais vous savez, Monsieur Andréotti, dans les classements internationaux, ça compte quand même. Il faut voir quelle est la position de la France par rapport aux autres pays. Ce qui concerne le rang de nos facultés, on arrive, la première est à combien? 20e position, hein? Même pas.
Oui,
bon, on a quand même un effort important à faire.
Monsieur Roch me tend un peu aussi une perche. Voilà un piège dans lequel nous sommes en train de tomber. Notre référence, c'est le classement de Shanghai. Donc voilà, notre
les classements internationaux,
c'est le classement de Shanghai
qui sont reconnus
donc on fait,
par tout le monde.
On est en train de faire des efforts considérables parce qu'effectivement, on s'aperçoit qu'on perd des places au classement de Shanghai. On est rentré dans une compétition.
Mais oui, mais
un
il faut accepter,
absurde,
il faut accepter le regard des autres. Il faut pas être franco-français.
Alors, justement,
on est les meilleurs.
Parle
sûr,
du regard,
mais le bon,
parle
le bon regard, le bon regard des autres.
Puisqu'on parle du regard des autres,
il y a un piège considérable.
On a tous été interpellés puisqu'on est tous. Il y a même un site internet qui est ouvert pour que nous indiquions ce qu'est pour nous l'identité française. Alors je me suis demandé, je ne me suis pas trop demandé parce que ce que ça pouvait être, je suis allé voir un peu le site. Je me suis surtout demandé ce que ça pouvait être déjà, puisqu'à mon avis ça pose trois questions. Qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est et comment ça se construit. Alors est-ce que vous avez, puisqu'on a tous été interpellés, je suppose que vous vous sentez interpellés comme les autres, y compris les Verts, par exemple, Monsieur Calmette, sur l'identité française.
Vous avez dit l'identité française.
Oui, alors
je dirais plutôt l'identité nationale.
Ben, oui, mais on a posé la question qu'aux Français. Alors,
voilà, une nation, c'est un petit peu différent. Hein. Il y a la France qui est une nation, mais les deux mots sont complémentaires, je dirais.
Ah ben, alors, expliquez-vous.
Mais je vais vous expliquer. En France, c'est un pays, la France, qui fait une nation qui est peuplée de diverses ethnies, de diverses personnes, de religions différentes, de couleurs différentes, de sensibilités politiques différentes, d'instructions différentes. Ça fait une nation. Cette nation s'appelle la France. Voilà, à mon avis, ce qu'il faut. Il faut mettre des bases comme ça. La France, c'est pas que des Français. La France, c'est une nation où il y a tout un tas de gens.
Excusez-moi, mais enfin, entre que les citoyens soient différents les uns des autres, mais qu'on mélange les citoyens et les habitants, ça me paraît quand même un peu singulier. Mais enfin, si vous voulez vous expliquer là-dessus,
je lance le débat. Martin, je lance le débat. À mon avis, une nation, c'est un melting pot de gens de toute couleur, de toute religion, de toute provenance. Bon, nous avons un président de la République qui est d'origine hongroise, je crois, et je trouve ça très bien. Nous avons des ministres d'origine béninoise ou je ne sais quoi, mais je trouve ça très bien. C'est une nation, c'est un fondement.
Les ministres en question, la ministre en question, a apporté une contribution au site dont je parlais.
Oui,
et elle ne référait pas tant que ça.
Elle se dit française parce qu'elle est nationalisée française. Il y a en France des gens.
Il y a donc une nationalité.
Mais bien sûr. Il y a des gens en France qui n'ont pas la nationalité française et qui font partie de notre nation parce qu'ils travaillent chez nous, ils amènent de la valeur ajoutée, bien sûr.
D'accord. Donc des gens, des habitants font partie de la nation selon vous,
à mon avis. À partir du moment où ils contribuent au développement de notre pays, ils font partie de notre nation. Voilà.
Alors quelle serait l'identité de cette nation composée d'habitants ?
Territoire
sur lequel
l'identité de notre nation, c'est une identité cosmopolite et qui marche très très bien. Je veux dire que nous avons un pays qui est ouvert depuis la loi de 1905 sur la séparation des pouvoirs. On voit ce qui se passe dans d'autres pays qui ne sont pas des nations, parce que si vous n'êtes pas musulman en Arabie Saoudite, vous n'existez pas. On est bien d'accord. Chez nous, c'est pas du tout le cas. Chez nous, on est laïque, on est humain, on est ouvert à tout. On accepte toutes les obédiences politiques, toutes les obédiences religieuses. On accepte toutes les couleurs, toutes les pensées de chacun. Et c'est ça qui fait une belle nation. C'est pas de se dire.
Il y a peut-être une résultante quand même.
La résultante, c'est qu'on a un beau pays où on est bien et on vit bien. Non.
Monsieur Andréotti,
vous
qui appartenez à un parti
en premier lieu,
qui s'est préoccupé de cette nation.
Ben, je vais vous lire quelques extraits de ce qu'on nous proposait des assises pour une république sociale participative, dans laquelle je trouve le droit de vote et d'éligibilité reconnu aux résidents étrangers, également le droit à créer ce droit-là qui donne aux sans-papiers. Également au lieu d'être persécuté, d'être associé et mieux considéré, surtout quand ils viennent de pays où ils sont en danger. Donc je vois un gouvernement qui fait la chasse à des gens, qui les renvoie chez eux, en Afghanistan, entre parenthèses, ça a un coût, la guerre.
C'est vrai que c'est le ministre concerné, en plus, qui a lancé ce questionnement.
On fait la guerre là-bas, ils viennent ici, on les renvoie lorsqu'ils sont en danger. Bon, je ferai simplement connaître ce que contient le manuel identitaire livré au préfet pour servir au grand débat, je cite, sur l'identité. Pour nous, c'est l'éteignoir des lumières, hein, tout simplement.
Ouais. Alors,
cette identité... Oui, comment peut-on être persan, se demandait Montesquieu. Et nous en sommes à nous demander comment peut-on être français. Et dans la presse étrangère, on se moque de l'ancien socialiste et de son gouvernement. Par contre, on voit que l'extrême droite se réjouit de voir qu'au gouvernement, on applique ce qu'elle souhaitait. Par contre, c'est tout simplement une stratégie qui passe par de multiples démarches qui sont toutes condamnables, qui sont dénoncées par la Ligue des droits de l'homme, la Fédération également de l'enseignement en Aveyron. Il y a une page ici sur Centre Presse récemment. Donc, pour aller vite, on nous demande, on crée un cérémonial d'accession à la nationalité. Il faut voir qu'est-ce que cela...
Ça vous gêne, concrètement ?
Un cérémonial.
Ça vous gêne ?
Ben moi, je suis de plusieurs nationalités, et je parle plusieurs langues, et cette question de me dire français abstraitement, oui, je suis français, mais pour nous, il y a la carte d'identité qui en atteste. Ensuite, de créer comme une transcendance...
Moi, je vous assure que ça existe déjà. Enfin, au moment de la nationalité, les gens sont heureux.
Il faut voir.
À la sous-préfecture, je vous assure qu'ils sont heureux. Quelle que soit la nationalité, ils sont heureux d'être reçus comme ça.
Cette loi ajoute d'abord d'autres procédures, parmi lesquelles, bon, vous allez avoir, par exemple. Tous les
devant le micro, monsieur Andréati, devant
oui.
le micro.
Il faudrait voir, c'est-à-dire, je lis assez mal, c'est écrit tout petit. Mais enfin, ce qui accompagne cette loi, pour détourner l'attention, c'est extraordinaire. Hein. Pendant ce temps, on ferme par centaines blocs chirurgicaux et maternités, etc. Et c'est un gigantesque enfumage de l'opinion.
Moi, je suis assez d'accord avec ce principe-là, bien entendu. Moi, excusez-moi, M. Calmette.
J'avoue que j'ai un peu de mal à suivre le principe d'un bureau.
Je prends la parole.
J'ai entendu que M. Andréati s'en prenait au... Enfin, n'appréciait pas les cérémoniales qui pouvaient être mis pour les naturalisations et qu'en même temps, il nous a parlé de la fermeture des maternités.
C'est-à-dire, pendant ce temps, en effet, on ne parlera pas, et c'est jamais le moment d'ailleurs, de tout ce qui préoccupe les Français. D'ailleurs, un sondage le dit.
Moi, je me demande pourquoi on aborde ce
débat. Ce pas ceux qui préoccupent les gens, cette question.
Pourquoi ce débat-là et maintenant? Ça, c'est quelque chose qui me préoccupe.
Effectivement.
Et je n'arrive pas bien à percevoir, effectivement, quel est l'objectif, quelle est la finalité.
Ben, alors, ramasser les voix d'extrême droite, les garder.
Alors, voilà. Alors, on peut dire déjà, et pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, hein, c'est que ce serait quand même assez triste que ce soit le gouvernement qui nous dicte ce qu'est être français. Je pense qu'il faut faire attention à ça. On voit qu'effectivement, notre administration, les préfets, les sous-préfets sont engagés à fond dans cette affaire-là. Alors, si il s'agit effectivement d'organiser un débat, pourquoi pas? Mais attention, danger, à la dérive qu'on va nous imposer. Ces débats vont être menés sur tout le territoire. Ce sont les préfets, les sous-préfets qui vont rendre compte. Et voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut faire une loi? Est-ce qu'on veut changer quelque chose? Est-ce que notre identité nationale est menacée? Je ne le crois pas du tout, personnellement. Même s'il y a des difficultés, ne cachons pas ça. Alors pourquoi ce débat-là, maintenant? Et moi j'ai tendance, mon mauvais esprit naturel a tendance à penser un peu à un enfumage. Je veux dire, essayons d'agiter la fumée pour voir ce qu'il y a derrière. J'arrive pas à voir ce qu'il y a derrière. Alors moi je pense inévitablement à une manœuvre électorale. Ce ne serait pas la première fois. Puisque je vous rappelle quand même qu'en 2008, à quelques mois des municipales, le ministre de l'Éducation avait annoncé l'introduction dans les programmes scolaires de la connaissance de l'hymne national. Alors c'est en soi une bonne chose. J'ai été d'ailleurs ému lors de la cérémonie du 11 novembre de voir cette magnifique chorale d'enfants interpréter la Marseillaise. Bon, mais attention à l'enfumage quand même. Voilà. Et puis, peu avant les élections européennes de 2009, Nicolas Sarkozy avait déjà relancé ce débat sur l'identité nationale. Est-ce qu'au moment des élections européennes, on a besoin de parler d'identité nationale? On aurait mieux fait de parler d'identité européenne. Et là, il se trouve que, tiens, au mois de mars 2010, on voit arriver des nouvelles élections, et on ressort ce grand débat sur l'identité nationale. Alors, si les motivations sont effectivement de capter des voix qui auraient tendance à fuir parce qu'elles sont un peu déçues d'une politique qui est menée, c'est quand même un peu dommage de limiter ce grand débat à ces préoccupations un petit peu, disons, mercantiles au sens mercantilisme électoral. Quoi. Mais je n'arrive pas à voir le fond de l'affaire. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut changer la Constitution? Est-ce qu'on veut changer, est-ce qu'on veut faire des lois un peu plus restrictives, etc. Et puis alors, après, je ne dis plus rien, je vous le promets, mais je voudrais quand même dire, et là aussi, d'une façon un peu énergique, contester ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que vis-à-vis de l'État, vous avez un certain nombre de personnes sans papier qui sont sur notre territoire depuis longtemps, qui sont complètement intégrées, qui travaillent, qui payent des impôts, qui payent des charges sociales, etc. Eh bien, il y a une incohérence complète de l'État. Ces gens-là sont des clandestins pour le ministère de l'Intérieur, mais par contre, ils sont très réguliers aux yeux du ministère des Finances et des Affaires sociales. Alors, François Bayrou a proposé ce matin de régulariser toutes ces personnes-là, bien sûr en respectant les règles et les règlements. Eh bien, il va bien falloir qu'un jour, quand même, on y arrive. Et c'est une question quand même de morale. Et voilà, et c'est toutes ces personnes-là ne remettent pas en cause, bien au contraire, notre identité nationale. Alors, excusez-moi, j'ai été un peu long.
Alors, le dernier, parce que je vais finir en donnant la parole à je ne sais pas, parce que M. Besson qui a lancé ça, il est à l'UMP. Il est à l'UMP, M. Besson, c'est vrai.
Il est parti socialiste.
Mais, donc, M. Calmette, l'identité nationale, vous avez une idée de ce que ça peut être, d'à quoi ça peut servir
Oui, alors déjà, dire moi aussi, comme mes prédécesseurs, que à chaque veille d'élection, on nous ressort cette vieille soupe nationaliste et cet épouvantail de l'immigration. Et je vous parie que bientôt, on va nous ressortir l'insécurité. Voilà, c'est juste un peu... pour essayer de mettre un peu de parler d'autre chose après tous les scandales qu'il y a eu de l'UMP, que ce soit le scandale de Jean Sarkozy, que Monsieur Sarkozy voulait précipiter son fils, le procès Clearstream, les emplois fictifs de Chirac. On essaie de nous faire oublier tout ça, alors que les gens sont de plus en plus précaires, que nous sommes à quelques jours du sommet de Copenhague qui va vers la catastrophe. On essaie encore une fois de nous enfumer. Alors, concernant l'identité nationale, j'avoue que nous, chez les Verts, nous avons plutôt une vision humaniste et écologique, mais planétaire. Nous sommes avant tout des citoyens du monde, et nous avons cette vision, mais nous sommes des citoyens du monde, mais aussi d'ici, c'est-à-dire nous sommes de nos endroits, de l'Aveyron, nous sommes occitanistes, nous sommes régionalistes. Mais je ne comprends pas réellement ce que ça veut dire une identité nationale française. Alors moi aussi, comme vous sûrement, quand je suis au Monument aux Morts le 11 novembre ou le 8 mai, que j'entends jouer la Marseillaise, je suis ému parce que je pense aux gens qui se sont fait tuer pour nous un peu. Mais par contre, les paroles de la Marseillaise ne m'ont jamais fait vibrer. Et j'avoue que le 15-5 pur abreuve nos sillons, je déteste.
Je vous conseille le chant du départ, c'est le deuxième hymne.
Je préférerais.
Mais il faut dire aussi que ce n'est pas les mêmes auteurs. Chénier, c'est quand même un peu au-dessus de Rougedly.
Tout à fait.
Monsieur Roch, l'identité nationale lancée par Monsieur Besson, ministre de l'UMP et...
Et ancien socialiste.
Ancien socialiste.
Voilà, proche de Ségolène Royal, à l'époque.
Vous savez, M. Lacroix ne sort pas là.
Non, mais c'est tout à fait. Mais il pourra me répondre.
Publique,
mais
enfin,
c'est de notoriété publique. Hein, tout le monde le sait. ce qui me donne cette affaire-là, c'est qu'il n'y a qu'en France où on proteste dès que, comment dirais-je, on parle de la nation, on parle du pays. Vous savez, en Amérique, les Américains, ils sont très nationalistes. Hein. Et quand ils ont un problème, ils ont la main sur le cœur. Hein, ils se mettent au garde à vous très facilement. Les Anglais pareil, les Allemands pareil, et en France non. On n'a pas le droit de parler de l'identité nationale. Tout de suite, on est traité de raciste, de fasciste, et j'en passe et des meilleurs. Mais moi, je crois que dans le monde qui se mondialise, eh bien, on a besoin d'avoir des racines solides, profondes, qu'on revendique de façon à résister à cette mondialisation. Sinon, si ce n'est pas le cas, eh bien, on va faire un monde d'apatrides, comme disait le général de Gaulle, et rien ne vaudra rien, et rien ne sera sacré, et on ne tiendra à rien. Et c'est vrai que, comme vous le disiez, Monsieur Calmette, vous savez, quand vous êtes dans les villages français, mais c'est des millions de citoyens qui sont morts pour leur pays, des millions. Et ne serait-ce que par respect pour eux, je pense que il faut tenir à ce qu'est notre pays, qui nous a quand même apporté beaucoup.
Mais combien vous direz maudite soit la guerre,
Comment ?
Combien vous direz maudite soit la guerre ?
Mais bien sûr, mais bien évidemment, et la guerre des guerres.
Mais est-ce qu'on a besoin d'un débat pour ça?
Mais ce qui est possible, je
voudrais observer que ceux qui se sont fait tuer, ça se passait il y a 50 ans et il y a presque 100 ans.
On fait appel à la...
Oui, mais on peut-être d'une certaine idée de leur pays.
Peut-être la France a-t-elle changé depuis. Oui. Et je voudrais vous relancer une autre question. Vous avez tous l'air de dire que ceux qui ont lancé cette idée... Et j'ai sans doute raison, hein. Mais ceux qui ont lancé cette idée de s'interroger sur l'identité nationale française sont forcément tout à fait satisfaits de l'idée qu'ils s'en font et de ce qu'elle peut être. Est-ce que ça ne pourrait pas servir à s'interroger sur l'image qu'on donne à l'étranger et au monde et à essayer de l'améliorer ?
Plutôt, oui.
Ah, moi, je peux dire que...
D'accord, oui. Excusez-moi. Je viens d'accord. Moi, je voulais quand même venir aux faits. Et de faits, le ministre dont on fait actuellement l'honneur...
Qui a lancé ce débat.
Oui, je cherche mes mots parce qu'en même temps, je pense à ce que je lis. Et donc, ça donne de la confusion, excusez-moi. Donc, Éric Besson vient d'inventer une expression qui est scandaleuse. Hein. C'est ce qu'on appellera les mariages gris. C'est-à-dire, ils veulent légiférer contre des soi-disant escroqueries sentimentales.
Les bons sont les noirs.
C'est-à-dire que mettre le soupçon sur tout mariage entre natifs et gens de couleur et dénoncer, c'est pointer du doigt, c'est faire comme de manière obsessionnelle. Détourner l'attention des Français, le danger c'est l'autre, c'est l'étranger, et on va chercher dans une loi maintenant à en quelque sorte stigmatiser tout ce qui est mariage.
C'est vrai qu'après la disparition de Michael Jackson, c'est malvenu.
Ensuite, il y a dans des préfectures des sites où la délation est encouragée. Le ministère de l'Intérieur ne peut que le savoir. C'est-à-dire délation, un site ouvert par mail et par téléphone. Ça se passe en France, aujourd'hui. C'est-à-dire, vous voulez vous débarrasser d'un SDF, vous ne croyez pas que je l'invente, hein, c'est l'Humanité, tribune libre, écrite par un élu, qui est en même temps président de la Ligue des droits de l'homme. Hein. Il s'appelle Monsieur Dubois, il est élu à ce poste. Donc, si on me qualifie d'inventeur, il faut s'adresser à lui. En fait, c'est dans des départements, il a été fermé dans le Var, ça existait, grâce à la Ligue des droits de l'homme, et maintenant c'est en Essonne. Donc, je vois une grande cohérence entre toutes ces mesures, y compris celle de traiter de délinquants ceux qui viennent des élus, comme le vice-président de la région Rhône-Alpes, notre camarade, qui vient en aide à des gens pourchasser sans papier. Donc c'est très cohérent tout cela, ce n'est pas qu'une opération idéologique. Je crois qu'il y a là, en effet, une vieille droite qui retrouve ses bases, il faut dire les choses comme elles sont. Nous sommes loin des idées des Lumières, nous sommes loin des idéaux qui nous ont réunis. Et quand on voit la politique qui est encouragée par la France sur l'arène internationale, incapable d'avoir une initiative... je me dis que l'image de la France, et s'il y a une identité qui est donnée dans le monde, elle est vraiment lamentable. Et je crois qu'on a beaucoup à faire pour la redresser.
Ouais, quand même, en matière d'immigration, je vous signale que tous les pays européens, tous, ils sont sur la ligne française.
On les tire comme des lapins, non, hein, à la frontière du Maroc et de l'Espagne, et en Europe, non, hein, je précise.
Mais tous les pays au monde, qu'est-ce qu'il faut faire en matière d'immigration ? Bien sûr, c'est facile de dire, il faut accepter tout le monde, toute frontière ouverte.
Mais qui provoque cette misère ? C'est les choix politiques de nos gouvernements.
Et voilà, mais comment ? Il n'y a aucun pays au monde, aucun qui accepte d'ouvrir toutes ses frontières sans aucun contrôle. Mais ça n'existe pas. Et la politique d'immigration qu'a proposée le gouvernement français a été adoptée à l'unanimité par tous les gouvernements européens, alors que vous savez bien que il y a un certain nombre...
C'est pas nécessairement une référence.
Mais alors, dites ça à vos amis socialistes ou centristes, il y a quand même beaucoup de gouvernements qui sont entre les mains des socialistes ou des centristes ou des sociaux-démocrates, ou ce que vous voulez.
Donc, tous,
ils ont accepté cette politique d'immigration, tout simplement parce que vous ne pouvez pas concevoir une politique qui laisse les frontières absolument ouvertes. Et d'ailleurs, quand on le fait, ça aboutit à des drames. Parce que je vous rappelle quand même qu'il y a quelques années, il y a eu des squats qui ont flambé, où il y a eu des incendies. Pourquoi ? Parce que on n'avait rien contrôlé, tout le monde était rentré, sans regarder dans quelles conditions y rentrer, sans offrir à ces immigrés des conditions ne serait-ce que basiques de sécurité. Et d'hygiène publique. Et même ça, ils ne l'avaient pas. Et c'était il y a quelques années avant que cette politique d'immigration existe. Donc vous ne pouvez pas concevoir un pays, et au même titre d'ailleurs qu'un particulier. Est-ce que vous, dans votre maison, vous laissez la porte ouverte et tout le monde peut rentrer à toute heure du jour et de la nuit? Je veux dire, il y a une certaine hypocrisie. Mais c'est pareil, monsieur Jeannaudet. C'est pareil. Un pays a besoin de contrôler les entrées et les sorties. Et s'il le fait, il peut être plus généreux. Non.
Il faut d'abord les aider à rester chez eux.
Je tombe dans la réalité. Mais la France ne pourra pas le faire toute seule. C'est des paroles versales.
Il y a des milliers de réfugiés qui vont arriver, c'est quand même
la France. On va bien les accueillir. La France est un des pays qui accueille le plus d'immigrés et le plus d'étrangers en situation difficile.
Mais c'est nous qui les créons.
Non, c'est nous qui les créons en Afghanistan, en Asie, en Arménie ou ailleurs. C'est la France, c'est à cause de la France que tout ça arrive.
Bon,
vous voyez,
c'est
vous
le dites. Oui, tout seul, évidemment.
Sûr, puisque monsieur Jeannet a plus brûlé de répondre à ma question. Alors, pour une fois qu'on répond à mes questions, je m'en voudrais de ne pas lui donner la parole, puisque j'avais dit, est-ce que ça ne pourrait pas servir à savoir comment nous pourrions améliorer notre image à l'extérieur, cette question d'identité nationale?
À propos de l'extérieur, j'ironisais parce que j'ai relevé un article du Times qui ironisait récemment sur la vision passéiste proposée par notre gouvernement, hein, qui s'adresse plus à ses nationaux qu'à l'étranger, qu'aux étrangers ou aux gens qui sont sur notre territoire. Voilà. Et en fait, cette vision passéiste a effectivement soulevé un peu cette incohérence qui existait, hein, entre cette image de la douce France, la France de nos ancêtres, où il fait bon vivre, ce qui est vrai d'ailleurs, bien sûr. Hein, et puis la réalité qui est quand même un peu différente, hein, avec des banlieues violentes, avec des conflits raciaux, avec du communautarisme qui se développe. Hein, mais ce n'est pas parce qu'on va faire un grand débat sur l'identité nationale qu'on va résoudre ces problèmes fondamentaux.
C'est pas le communautarisme qui peut déranger les Anglais, hein.
Oui, non, d'accord, voilà. Mais enfin, donc, le Times avait un peu cette ironie de relever, et je le fais avec lui, cette contradiction. Hein, et pour moi, ce n'est pas ce débat-là qui va régler le problème. Ça risque encore plus, peut-être, de l'enfumer.
Et mais moi, vous savez, pour le PRG, c'est vrai que personnellement, je suis très humaniste. Mais je trouve que l'immigration, c'est une chance pour la France. Je suis peut-être le seul à le penser, mais je trouve que c'est une chance pour la France. L'immigration, certainement qu'il faut la contrôler, la maîtriser, peut-être, mais c'est une chance depuis toujours. Moi, vous savez, M. Roch, je suis du bassin de Decazeville. Je suis né après-guerre, et je peux vous dire que les immigrés espagnols qu'on a parqués sur les plages là-bas de Méditerranée, parce qu'on ne les voulait pas et qui ont été reçus avec plutôt le fusil que l'accolade, qui sont venus travailler dans les mines de Decazeville, qui sont intégrés depuis, bien sûr. Mais vous savez que ces gens-là, on en a eu besoin. Ils ont fait des bons Français. parce qu'ils ont eu des enfants qui sont français et des petits-enfants. Et je pense que c'est pas parce qu'on va accueillir des Afghans, des Iraniens, des Polonais, des je sais pas moi, des Africains, que la France sera dévalorisée, que nos campagnes resteront pas nos campagnes. Ils vont pas venir manger notre herbe dans les champs. Ils vont pas nous voler nos pommes.
Que vous ne parlez tous que de gens au-delà des mers, il y a des gens très différents qui viennent dans nos contrées. Un Hollandais, c'est différent d'un Kersinois. Hein.
Mais pourquoi pas, ce sont des gens à accueillir, et après tout, pourquoi pas. Vous savez...
Moi, je vous ai jamais dit qu'il fallait accueillir aucun étranger. Bien sûr, il faut en accueillir. Bien sûr qu'ils nous ont...
C'est une chance pour notre pays.
Mais vous êtes obligé de le contrôler, de le maîtriser.
L'Élysée encourage les agriculteurs en difficulté à faire venir des Roumains, parce qu'on les payera au salaire... du Bolkestein relooké, vous voyez. Alors si là aussi on a une bonne image à l'intérieur de l'Europe, si ce modèle-là de relations internationales dans le cadre de l'Union se généralise.
Mais les étrangers ont toujours envie de venir en France, oui. Dieu merci.
Et c'est de l'esclavage, monsieur.
Il faut en accueillir. Non, mais
c'est pas qu'ils ont envie, c'est qu'ils sont obligés. Il faut pas croire.
Oui, mais.
Appelons les choses
comme ça. Mais ils viennent en France
nom,
aussi parce que. C'est de l'esclavage. Parce que sans doute, ils trouvent que notre pays a de quoi
quand les faire. Quand on les affame dans leur pays, par exemple, en subventionnant notre agriculture pour aller exporter dans les pays africains et qui ne peuvent pas à ce moment-là développer leur agriculture vivrière, oui, ils ont envie de venir ici. Quand on est affamé, on a envie d'aller voir ailleurs.
Mais bien évidemment.
Il faut surtout les aider à ce qu'ils aient
pas payé comme en Roumanie.
La France est un des pays qui fait le plus, et vous le savez très bien. C'est un des pays qui fait le plus pour le développement et qui aide le plus les pays sous-développés. On ne fait pas assez. Je suis d'accord avec vous.
Mais
on fait plus que les autres. Voilà. On fait plus que les autres. Et plus que les pays, notamment socialistes.
Bien, eh bien, je crois qu'on va être obligé de compter sur les rapports faits par les préfets, parce que vous ne collaborez pas beaucoup à la définition de l'identité nationale française. Alors, ne collaborez pas beaucoup ce soir, Angelo Andreotti pour le Parti communiste, Jean-Luc Calmette pour les Verts, Francis Martin pour le PRG, Serge Roch pour l'UMP et François Genevet pour le Modem. Et tout ce petit monde était interrogé par Claude Devezin. On se revoit avant Noël.